Quel est l'état du logement social dans l'agglomération toulousaine, Isabelle Duché?
C'est la question que s'est posée la Chambre régionale des comptes Occitanie. Elle a en effet mené une enquête sur l'accès au logement social. La co-rapportrice de ce rapport, première conseillère à la Chambre régionale des comptes, Marjorie Merliot-Hubert, nous la présente ce matin. Bonjour madame.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous ce matin pour nous présenter ce rapport. Alors ce rapport, c'est vrai qu'il a pour objet l'accès au logement social, je le disais, dans la grande agglomération toulousaine. Quel est le périmètre précisément de cette étude?
Oui, donc nous avons, au niveau de la Chambre régionale des comptes, mené cette étude à l'échelle de 5 intercommunalités qui forment donc ce que nous appelons la grande agglomération toulousaine. Donc on est sur Toulouse Métropole, deux agglomérations autour de Toulouse Métropole, celle du Sicoval et du Murtin, le Grand Ouest toulousain et la communauté des communes des Coteaux du Bellevue. Ça représente environ 114 communes.
114 communes. Votre rapport, enfin le rapport de la Chambre régionale des comptes, met en évidence une déconnexion entre l'urgence de la demande et la réalité de l'offre, malgré quand même un rythme de construction soutenu, même si on sait bien qu'il a un petit peu ralenti. Comment vous expliquez une telle disparité?
Alors, on a observé plusieurs phénomènes. La première chose qu'il faut retenir, c'est que l'Occitanie, et en particulier la région toulousaine, avait historiquement un très grand retard en matière de logement social. En 2022, il se situait au dernier rang de la France métropolitaine en nombre de logements sociaux pour 1000 habitants. Pour autant, ces dernières années, la région a fait des efforts très soutenus de production de logements sociaux, avec une croissance deux fois plus rapide qu'en France métropolitaine et trois fois plus rapide pour Toulouse.
Donc il y a eu
un véritable effort de production de logements sociaux. Le problème, c'est que dans le même temps, on a connu une explosion de la demande de logements sociaux, une très très forte hausse de demandes, alors qu'ils sont liés à plusieurs choses. Hein. D'une part, l'accès au logement social est très large en France, vous le savez, 70% des ménages peuvent avoir accès à un logement social. Et avec la crise de l'immobilier privé, la demande s'est portée plus fortement sur le marché social, avec les difficultés d'accès au crédit bancaire des ménages, avec le renchérissement des prix de l'immobilier. Ceci explique cela. L'autre élément, c'est que la forte attractivité de la région toulousaine, qui a connu de très très nombreux nouveaux arrivants, et parmi ces nouveaux arrivants, il y avait des personnes éligibles au logement social. Voilà, donc la déconnexion, elle s'explique par ce double mouvement, une demande qui est très très forte et une production qui, même si elle est en rattrapage, est insuffisante et c'est un processus qui prend plusieurs années.
Et puis, dans le rapport, on lit à propos de cette déconnexion, une demande qui est surreprésentée pour des logements de type T2, alors que le parc présente plutôt des logements de type T3.
Tout à fait. Ça, c'est également une autre explication. C'est la déconnexion dans la qualité de l'offre. On a aujourd'hui besoin de plus petits logements ou de plus grands logements, de types de logements qui ne sont pas présents sur le marché. Les bailleurs sociaux sont bien entendu ajustés à la demande, mais comme je le disais, c'est un processus qui prend plusieurs années. Et donc aujourd'hui, la demande n'est pas complètement ajustée à l'offre.
Vous disiez, Marjorie Merliot-Hubert, que la demande avait bondi. Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre pour qu'on ait une idée?
Oui, tout à fait. Alors pour vous donner peut-être quelques chiffres très parlants, en 2019, on avait 2,8 demandes pour un logement attribué. En 2023, on est passé à 4,9 demandes pour un même logement attribué. Donc vous voyez que la demande et la tension sur le logement social a fortement augmenté. Et en termes de délai d'obtention, on est aujourd'hui à 16 mois entre le moment où la personne fait une demande de logement social et le moment où elle va en avoir un. Donc 16 mois, alors qu'auparavant, nous étions à 13 mois. Donc ce sont des délais relativement importants.
Vous disiez que 70% des ménages pouvaient avoir accès au logement social. Et c'est vrai qu'il y a un paradoxe assez troublant dans votre rapport qui réside dans les attributions. Le système semble exclure ceux qui en ont le plus besoin. Pourquoi les publics prioritaires et les personnes sans emploi, par exemple, ne sont-ils pas les publics qui ont le plus accès à ces logements sociaux?
Alors effectivement, ça peut paraître paradoxal. Ça s'explique par plusieurs éléments. Alors comme je le disais, le logement social en France a vocation à être assez large. Hein. 70% des ménages peuvent avoir accès à un logement social. Pour autant, l'État a défini des publics prioritaires dans l'accès au logement social et on trouve ainsi dans la loi plus d'une dizaine de catégories de publics prioritaires. Donc on va retrouver des publics très pour des motifs très divers, donc des personnes qui n'ont pas d'hébergement, des personnes qui sont dans des logements insalubres, des personnes victimes de violences conjugales ou encore en situation de handicap qui ne sont pas dans un logement adapté. On a comme ça plus d'une dizaine de catégories de publics prioritaires. À cela est venu se rajouter également le DALO, le droit au logement. Je pense que vous en avez entendu parler, voilà, le droit au logement opposable. Et puis, un autre élément qui sont les relogements liés aux opérations en rue de rénovation urbaine, c'est-à-dire, vous savez, ces opérations de démolition, reconstruction de grands ensembles pour lesquels les ménages doivent être relogés. Donc, au final, ce qu'on constate, c'est qu'on a de multiples priorités qui sont venues s'accumuler au fil des années, qui fait que, à multiplier les priorités, on ne sait plus trop bien qui est prioritaire. Et il y a effectivement un paradoxe, c'est que l'État et le département de la Haute-Garonne ont fixé un objectif, donc qui est celui de la loi, hein, de 37,5% d'attribution pour les publics prioritaires. C'est-à-dire que normalement, chaque année, on doit avoir 37,5% d'attribution réservée aux publics prioritaires. Lors de notre enquête, nous avons fait le constat qu'il n'y en avait que 26%, donc presque 10 points de moins, et des délais d'attente supérieurs aux autres publics. Alors les explications, alors je l'ai dit en partie, hein, la multiplication de publics prioritaires, mais également le fait que les logements ne sont pas forcément adaptés à ces publics prioritaires. Je m'explique, on a plusieurs types en fait de logements sociaux et on a des logements très sociaux dont les loyers sont plus abordables et qui sont plus tournés sur ces publics prioritaires. Or, on fait le constat un peu tout à l'heure comme la taille des logements, qu'aujourd'hui le parc social ne dispose pas assez de logements dits très sociaux. Donc là encore, il y a une impossibilité liée à l'offre de loger ces personnes-là. Et puis, il y a une dernière explication qui est liée à la stratégie des bailleurs sociaux, puisque les attributions sont aussi, et surtout, on verra peut-être tout à l'heure, le fait des bailleurs sociaux. Or, ces bailleurs ont tendance à privilégier des demandeurs insérés dans le marché du travail pour des questions de solvabilité économique, d'une part, voilà, et d'autre part, de mixité sociale, qui est également un autre objectif qui est imposé par le législateur, pour assurer la mixité sociale. Et qui dit mixité sociale dit ne pas attribuer de logements sociaux uniquement à des publics prioritaires, mais également à des publics un peu plus, je mets des guillemets, favorisés.
Oui. Et quand vous parlez d'adaptation aussi au logement, quand vous disiez qu'un des publics prioritaires, c'était les personnes en situation de handicap, est-ce que là, dans le logement social, il y a une proposition qui est adaptée à la demande ?
Sur les personnes en situation de handicap ? Oui. Alors non, pas assez. Alors il y a plusieurs dispositifs. Hein. Il y a à la fois les bailleurs sociaux qui font un effort d'adapter une partie de leur parc et qui bénéficient pour ça de soutien, de subventions de la part de l'État. Mais c'est lent, hein, parce que ça suppose des investissements. Et puis il y a dans le parc, on va dire privé, là, pour les personnes en situation de handicap, la capacité également, la possibilité de mobiliser des aides pour adapter leur leur logement. Donc ça passe par les bénéficiaires ou par les bailleurs sociaux. Mais non, 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 il y a encore un retard important sur cette question-là.
Il y a encore un retard à rattraper. Marjorie Merliot-Hubert, vous avez parlé du processus d'attribution. C'est vrai que souvent, c'est un peu nébuleux. On se demande un petit peu comment ça se passe. Le rapport de la Chambre régionale des comptes met en lumière le rôle prépondérant et largement invisible des chargés de clientèle des bailleurs sociaux. Quels sont les risques soulevés par la Chambre?
Alors, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a là aussi une volonté forte du législateur d'encadrer le processus d'attribution et de le rendre le plus transparent possible. Donc, on a fait ce constat, effectivement, les attributions sont décidées par des commissions d'attribution, donc on appelle les CALEOL, mais qui sont en fait des commissions d'attribution de logements. Ces commissions se réunissent donc une à plusieurs fois par semaine et doivent présenter pour chaque logement, le bailleur doit présenter 3 candidatures. Donc on a un système plutôt transparent de ce point de vue-là.
Après, ça dépend qui y a dans la commission.
Qui siège alors, dans la commission est représentée, voilà, il y a effectivement... mais elle est diverse, il y a des représentants des communes, des intercommunalités, de la CAF, des bailleurs sociaux, d'associations également. Donc les commissions sont diverses. Par contre, ce que nous avons, nous, constaté, c'est que l'enjeu, il se situe en amont des commissions. Et effectivement, au niveau des chargés de clientèle. Les chargés de clientèle, ce sont eux qui, lorsqu'un logement devient vacant, vont aller piocher, si on peut dire, dans la base des demandeurs, ces fameuses 3 candidatures. D'accord. Et en fait, le véritable enjeu, il se situe là. Il se situe sur comment on va faire, qu'est-ce qu'ils vont mettre comme critères pour remonter, vous voyez, 3 candidatures parmi potentiellement des dizaines, voire des centaines disponibles et de candidats légitimes. Donc nous, on a attiré l'attention sur ça, sur cette partie-là, qui est finalement, comme vous le disiez, invisible et qui constitue pour nous des risques potentiels, tout simplement parce qu'il y a un facteur humain qui intervient et un facteur un petit peu de critérisation, en fait. Voilà.
Ouais, ouais.
Donc nous, ce qu'on a conseillé, recommandé aux bailleurs, certains le font déjà, hein, c'est de bien encadrer le travail des chargés de clientèle, donc certains effectivement des procédures internes un peu précises, mais là encore, on se heurte au fait qu'il y a de multiples critères de priorité. Donc d'un chargé de clientèle à l'autre, on pourra avoir des priorités un peu différentes. Donc mieux encadrer le travail des chargés de clientèle, veiller à bien harmoniser les pratiques et leur faire signer des chartes de déontologie pour justement les alerter sur ce rôle particulièrement stratégique qu'ils détiennent.
Et dans cette charte de déontologie, qu'est-ce qui pourrait figurer, par exemple?
Alors, il peut figurer plusieurs choses. D'une part, l'obligation, par exemple, de signaler lorsque le chargé de clientèle connaît une personne dans son environnement proche qui est demandeur dans le logement social. Donc là, ça pourrait, et ils le font, hein, pour certains déjà, c'est-à-dire signaler et puis gérer le dossier par un autre chargé de clientèle, par exemple. Mais également faire des retours, des changes de pratiques, également avoir un contrôle en qualité de la part des supérieurs hiérarchiques des chargés de clientèle, tout simplement pour veiller à ce qu'il n'y ait pas à ce que l'ensemble de la structure en fait applique les mêmes critères, ou ce qu'il n'y ait pas. Alors par exemple, pour vous donner un exemple très concret, tout simplement les chargés de clientèle reçoivent donc plusieurs dizaines, hein, de dossiers par jour. Et on peut avoir la tendance, pour aller plus vite, parce qu'ils sont aussi soumis à des critères d'efficacité, de rapidité,
oui,
voilà, de prendre le dernier dossier arrivé parce qu'il sera par définition actuel, plus actualisé, alors que des dossiers un peu plus anciens vont demander des démarches d'actualisation pour récupérer des situations professionnelles à jour, par exemple des situations sur le revenu. Voilà, donc ça peut être tout simplement ce biais-là. Qui fait qu'en fait, une personne récemment arrivée va avoir plus de chances qu'une personne un peu plus ancienne dans la file d'attente. Donc ça, ce sont des choses qui se travaillent au niveau de la structure et des bailleurs sociaux.
Voilà, en tout cas, un travail de fourmi qui a été réalisé par la Chambre régionale des comptes, dont vous êtes la première conseillère pour l'Occitanie, je précise, et puis des recommandations qui ont été faites à propos de l'accès au logement social. Je vous remercie beaucoup, Marjorie Merliot-Hubert, de nous en avoir fait part ce matin.
Merci à vous. Très bonne journée.